Dimanche prochain, quand vous allez voter, vous allez donner à quelqu'un l'autorisation de gouverner. C'est ça, non? Merci. Et c'est le vote en France, hein? Les Français vont décider des élus ou de l'élu qui va être au service des autres. Hein? Alors, il n'y a pas que l'élection présidentielle, hein? Il y a des tas de petites élections qui vont aussi arriver. Alors, l'autorité et la question par rapport aux autorités politiques, eh bien, on peut voir dans la Bible déjà une première partie, hein, concerne le peuple d'Israël. Je ne parle pas d'avant, mais à partir du moment où le peuple a été constitué comme un peuple, c'est-à-dire une multitude, une organisation interne, des lois, et puis aussi un territoire qu'ils ont conquis, hein, lorsqu'Israël est passé de clan à un peuple nombreux. Eh bien, la première mise en place de l'autorité était une autorité spirituelle. Dieu n'a pas choisi quelqu'un en disant, tu vas être le roi. Hein? Et donc, cette autorité spirituelle, eh bien, elle est inspirée par Dieu et imposée par Dieu. C'était indiscutable. Et bien sûr, Dieu a choisi Moïse pour conduire le peuple. Et puis, Moïse, va présenter son successeur, mais pas parce qu'il avait envie de choisir Josué. Mais comme il est dit ici dans Nombre 27, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Noun, en qui se trouve l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute la communauté, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Et Moïse posa ses mains sur Josué et lui donna des ordres, comme l'Éternel avait dit par l'intermédiaire donc de Moïse. Voilà ce que Moïse a fait. À bien des égards, bien sûr, Moïse et Josué exerçaient une autorité royale, hein, mais c'était quelque chose que Dieu leur avait donné. Et après Josué, ce qui est très surprenant, c'est qu'il n'y aura plus cette désignation d'un successeur. C'est lui qui prend ma place, hein. Souvent, c'est comme ça, hein. Ça finit par des clans, hein, ça finit par, voilà, le choix de quelqu'un qui va désigner une autre personne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le seul vrai roi d'Israël, c'est Dieu. On n'a pas besoin de dire, tiens, lui, tu vas devenir roi. Hein? Et c'est ce que Dieu a dit, hein, à Moïse. Maintenant, donc, parle au peuple, si vous écoutez, c'est ce qu'Étienne nous a dit, ouvrons nos oreilles, hein, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. C'est intéressant, c'est qu'en fait, Israël est le seul peuple dans l'Ancien Testament qui appartient directement à Dieu, même si Dieu est le maître de tous les peuples. C'est ce qu'on appelle la théocratie. Hein? En d'autres termes, il est intéressant de voir que l'Éternel n'est pas seulement le Dieu d'Israël qu'il va prier, mais aussi le Dieu, donc le roi d'Israël. C'est lui qui va gouverner et il va gouverner par des exécuteurs, des gens qui vont exécuter sa volonté, hein. Par sa loi, il a donné une loi, par son esprit. Tout ça pour régler la vie donc communautaire d'Israël. Alors, ces exécuteurs sont des hommes désignés. Il y a les sacrificateurs et les prêtres. Ils doivent appliquer la loi et c'est eux qui représentent un peu comme les députés, ils représentent le peuple devant Dieu. Et puis, il y a bien sûr les princes, les juges, les anciens et les chefs que Dieu a établis et qui vont diriger le quotidien. Mais une chose est sûre, c'est que tout ce peuple est amené à vivre dans cette harmonie par rapport à ce que Dieu dit et pas à ce que les hommes ont décidé voilà, d'interpréter ou de dire. Mais on sait très bien qu'après Josué, il va y avoir un temps difficile. Alors là, ça a été assez compliqué, hein. C'était un temps qu'on lit des fois comme un temps d'anarchie, hein. Alors l'anarchie, c'est pas voilà, le positionnement du mouvement anarchique, hein, qui est assez récent, mais c'est chacun faisait ce qui lui semblait bon, hein. Quel bazar, hein. En fait, le problème, c'est que c'est devenu une période où on n'écoutait plus ce que Dieu avait à dire. Et chacun faisait ce qui semblait bon, une période donc de déchéance morale et donc forcément de déchéance spirituelle, où il n'y a plus la notion d'appartenir à un peuple. Ça commence un peu à disparaître dans le cœur des gens. Alors, que fait Dieu? Il laisse les ennemis prendre le dessus. Que fait Israël? Ah, il se lamente. Que fait Dieu? Il les sauve. Que fait Israël? Ah, merci. Et puis après, il s'éloigne, etc., etc. Ça, c'est les juges, hein. En fait, Dieu, dans sa miséricorde, va répondre toujours à l'appel d'Israël, hein. Il est un Dieu bienfaisant. Il reste le roi, même s'il n'est pas reconnu. Après, donc, la période des juges, eh bien, on est à l'an 1000. Eh bien, on va être au temps des rois, hein, 1000 avant Jésus-Christ. Alors là, le temps des rois, c'est un tournant dans l'histoire du peuple d'Israël. Israël pense que ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de roi, comme les autres nations. Alors Israël était appelé à avoir Dieu comme roi, mais Israël voulait être comme les autres nations. Et c'est Samuel, le dernier juge, qui va donc accéder à la requête du peuple, même si il en a souffert, hein, parce qu'il sait très bien que c'est un rejet du système théocratique. Hein. Donc Dieu va désigner un homme et il va choisir l'onction. Alors l'onction, c'est la désignation. Quand on parle du Messie, ça veut dire celui qui est oint, celui que Dieu a désigné. Hein. Et donc évidemment, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu va désigner cet homme avec l'approbation du peuple. Il va pas dire je vous impose ce gars, ah on l'aime pas trop, c'est pas grave, je vous l'impose quand même. Hein. Il va donc susciter l'approbation du peuple. Et Samuel dit à tout le peuple, voyez celui que l'Éternel a choisi. Évidemment, il avait tous les critères de Donald Reagan, hein, le beau gosse et tout, bien grand, tout ça. Et en fait, il est dit donc il n'y en a point comme lui dans tout le peuple. Et le peuple lança une clameur et a crié merci Seigneur, non vive le roi. Voilà. Ça leur a plu. C'était bien sympathique. Ils voulaient un roi, eh bien, je vais vous donner un roi. Quand vous le voulez. Eh bien, on sait très bien que lorsque Dieu a choisi Saül comme roi d'Israël, eh bien, et puis, par la suite, Dieu va rejeter ce roi. Pourquoi? Parce que Saül va se montrer insoumis aux lois de Dieu. Hein, il va pas vraiment prendre égard pour Dieu. C'est vraiment le type de dirigeant égoïste, ne pensant qu'à ses intérêts et cruel. Et que fait Dieu? Eh bien, il va choisir un homme avec un critère. Un homme selon son cœur. Hein. C'est ce que le psaume nous dit, hein. Psaume 78. Dieu a élu David, son serviteur. Il l'a tiré des bergeries. Il l'a pris derrière les brebis qui allaitent. Pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David a fait paître avec un cœur intègre et les a conduits avec des mains habiles. Alors habile, c'est pas des intrigues, hein, c'est pas de la manipulation. Habile, c'est avec la sagesse de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de séparation entre le religieux et le politique. Hein. Le roi est en quelque sorte comme le premier ministre de Dieu qui est le président. Et le roi donc va avoir le soutien des sacrificateurs et de ses conseillers militaires. Si le roi désobéit aux directives de Dieu, eh bien le premier contre-pouvoir qui va se manifester, c'est celui des prophètes. C'est pourquoi Dieu va envoyer des prophètes. Et les prophètes ne vont pas forcément s'adresser au mauvais roi, hein. Ils vont reprendre des rois qui ont été bons et qui se sont détournés. Par exemple, on a le cas donc de David, le roi David, quand il s'est détourné, hein, quand il a commis l'adultère avec Bethsabée, quand il a fait donc il a participé au meurtre donc de Uri, le mari de Bethsabée. Ben Nathan est allé le voir et il lui a dit voilà de la part de Dieu c'est ce que j'ai à te dire. Donc il n'y a pas de séparation où le politique fait ce qu'il veut et il n'y a pas le regard du spirituel. Et nous avons un exemple qui est assez intéressant, c'est l'exemple d'Ozias dans 2 Chroniques 26. Lorsque Ozias lui a fermé son pouvoir, son cœur, le cœur du roi, s'enhardit jusqu'à entraîner sa perte. Il fut infidèle à l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel des parfums, comme le faisaient d'autres rois dans d'autres nations. Alors les sacrificateurs, Azariahou, entra devant lui avec 84 sacrificateurs de l'Éternel, vaillants hommes, et ils vont s'opposer au roi Ozias en lui disant, ce n'est pas à toi, Ozias, de brûler les parfums à l'Éternel, mais aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les brûler. Sors du sanctuaire, car tu es infidèle. Cela ne tournera pas à ta gloire devant l'Éternel Dieu. Donc, on connaît la fin d'Ozias. Il va subir donc le châtiment de sa désobéissance en ayant porté les parfums que seuls les sacrificateurs pouvaient le faire. En réalité, ça c'est formidable, c'est qu'en Israël, le peuple comme les autorités politiques étaient soumis à la loi de Dieu. Alors on va dire, oui, mais ici aussi, un homme politique ne peut pas faire ce qu'il veut. Si nous comparons à la situation d'Israël à son époque dans le Proche-Orient ancien, c'est véritablement une révolution. Dans d'autres nations, les nations voisines, eh bien, un roi avait quasiment le pouvoir absolu. Alors qu'en Israël, le roi n'a pas de pouvoir absolu. Si vous avez un petit moment, lisez Deutéronome 17, hein, où Dieu recadre le privilège du roi en prévenant Israël des dangers du roi, d'avoir un roi, non pas en valorisant donc le fait d'avoir un roi. Hein. Ce qui va être demandé au roi, principalement, c'est l'humilité et la fidélité à Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de séparation, le religieux d'un côté et le politique de l'autre. Hein. Il n'y a pas encore la loi de 1905. Hein. Donc, la même foi est demandée à tous et avec une interaction dans le gouvernement du pays. Alors, beaucoup de mauvais rois, bien sûr, vont désobéir à Dieu et entraîner le peuple, et ce qui va entraîner le jugement de Dieu sur le peuple. Et Dieu va susciter un ennemi du Nord, hein, donc les Assyriens, puis après les Babyloniens. Le royaume d'Israël, donc le royaume du Nord, va être exilé par sa désobéissance à Dieu en 722 avant Jésus-Christ, et le royaume du Sud, donc Juda, en 586. Et regardez ce que Dieu dit. « J'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments. » Ah, ça, c'était les quatre châtiments promis pour châtier Israël qui a désobéi. Eh bien, donc mes quatre châtiments, l'épée, la famine, les bêtes féroces, la peste, pour en retrancher hommes et bêtes. Alors, Dieu est très dur. Hein. Il est le roi absolu. Hein. C'est une théocratie. Israël veut autre chose. OK, je vous le donne. Un roi, mais ce roi ne peut pas faire ce qu'il veut. Et nous voyons dans la chronologie que nous avons ici donc des étapes. À un moment donné, il y a la séparation, donc la division des deux, donc d'Israël en deux, et puis après l'exil. Et que se passe-t-il donc? Quelle est l'attitude d'Israël sous le joug des étrangers? Le rapport entre eux et les autorités politiques, eh bien, de manière très surprenante, c'est Dieu qui dit, c'est moi qui ai suscité Babylone pour venir vous envahir et vous déporter. Hein. Et regardez ce qu'il dit à Jérémie. Alors, l'Israël se posait la question, hein, est-ce que nous devons prendre les armes et nous révolter contre Babylone? Est-ce que nous devons faire alliance avec l'Égypte, etc.? Et Dieu dit à Jérémie, qui ne sera pas écouté, si une nation ou un royaume ne sert pas Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne se livre pas au roi de Babylone, moi j'interviendrai contre cette nation. Alors, en d'autres termes, l'ennemi va prendre autorité en Israël, va déporter les gens. Que doivent faire les Juifs? Eh bien, ils doivent être soumis à cette autorité étrangère. Alors, j'espère que ça a un côté choquant pour nous, de dire, comme ça a eu pour Israël à l'époque, comment nous qui sommes le peuple de Dieu, nous devons baisser la tête devant des païens? Et Dieu dit, oui, c'est ce que vous allez faire. Hein? En fait, Israël, eh bien, va se retrouver sous cette domination. Et quelle est l'attitude qu'ils doivent avoir? Jérémie 29, 7. Voilà. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté. Pas rentrer en résistance là-bas. Soyez insoumis, n'obéissez pas, hein, restez dans votre... Voilà. Non, non, recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel parce que votre paix dépendra de la sienne. on peut vraiment bénir Dieu de ce que nous vivons dans un pays en paix. Je pense que ces dernières semaines, nous en sommes conscients. Combien de personnes aimeraient avoir votre place et ma place, hein? Soyons-en conscients. Que dit Dieu à Jérémie? Quelle est l'attitude vis-à-vis de l'autorité politique qui n'est pas chrétienne ou juive à l'époque, hein? C'est rechercher la paix. Soyez, désormais, Israël doit être une bénédiction sur un sol étranger, parce que c'est cette domination qui le protège. Alors, ça a été le cas de nombreux personnages de cette période qui ont été loyaux. Par exemple, Mardoché a été loyal, Daniel et ses compagnons ont été loyaux. Donc Mardoché vis-à-vis donc de l'empire perse, et avant ça donc Daniel vis-à-vis des empires qu'il a traversés. Hein. Mais surtout, demeurer fidèle à Dieu. Hein. Ce n'est pas parce que nous vivons une épreuve que nous pouvons nous permettre de désobéir à Dieu. Hein. Ça c'est important. Des fois on dit ouais je vis ça, c'est très dur, etc. Et je me permets. Hein. Israël déporté, mais non, rester fidèle à Dieu. Sur cette terre étrangère, eh bien, le fidèle devait apprendre à se positionner par rapport à cette nouvelle donne, donc par rapport aux autorités politiques. Et mais tout juif pieux avait cette conviction que même les autorités étrangères servent, qu'elles le veulent ou pas, le plan de Dieu. Est-ce que nous sommes convaincus de cela? Que les autorités politiques, qu'elles le veuillent ou pas, qu'elles soient conscientes ou pas, volontairement ou involontairement, servent le plan de Dieu. En fait, à tel point que dans l'Ancien Testament, il n'y aura jamais un prophète qui se lèvera, qui donnera des ordres de révolte donc aux Juifs dans les pays où ils vont se retrouver. Le combat et contre les mauvaises influences vont se mener dans la prière. Alors nous nous approchons encore et nous allons arriver au Nouveau Testament. Ah, ça va un peu plus nous parler. Hein? Cela va nous éclairer sur notre attitude à avoir. Après, je vous dirai qui voter. Ah, vous savez pas? Ok, on va en parler. On est là jusqu'à 14 heures. Hein? Alors, l'Église primitive à l'époque est très minoritaire dans un monde où domine le paganisme. Hein, je pense que quand on lit les auteurs anciens, grecs, etc., on a une idée de ce qu'était le paganisme. Hein. Vous voyez, un peu Pompéi, hein. Bon, ce qui a été découvert. Hein. En plus, dans non seulement paganisme, mais avec leur propre moralité issue des philosophes grecs, mais en plus polythéiste. Il était absolument absurde pour un grec ou un romain d'imaginer qu'il n'y avait qu'un seul dieu. Et ils pouvaient penser, ces pauvres juifs, ils ne sont pas riches, ils n'ont qu'un seul dieu, hein. Voilà. Et la position du chrétien, c'est être dans le monde, mais pas du monde. Hein, les réformateurs appelleront ça les deux royaumes, hein, de ce que Jésus a dit. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je vais les envoyer dans le monde. Alors, ça veut dire qu'une fois converti, on ne va pas vivre en communauté perdue tout seul. Hein? Et non, on est dans le monde. Hein? Alors, les chrétiens vont reconnaître une autorité d'abord absolue, c'est celle de Jésus. Et c'est comme ça qu'on était chrétien. Vous savez, un baptême à l'époque, c'était risquer sa vie. Parce qu'on déclarait qu'on n'avait qu'un seul Seigneur, qui n'était pas César, qui n'était pas les dieux, autres, mais que ce seul Seigneur était Jésus. Hein, c'était punissable de mort. Hein. En fait, Jésus, fils de Dieu, et il répandait dans l'Empire romain, eh bien, le message du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu? Ça veut dire qu'il y a un roi. Je comprends la stupéfaction d'Hérode. On est venu voir le roi des Juifs, disent les mages. Mais attendez, il y a un roi ici, là. Mais on peut pas être deux rois. Hein. Et la cruauté d'Hérode l'a poussé à tuer les enfants de moins de 2 ans. Pour pouvoir être sûr que ce futur roi allait être éliminé. Alors, évidemment, les chrétiens reconnaissent donc l'autorité de Jésus, mais le christianisme n'est pas un courant révolutionnaire. Ça, c'est important. Certains le disent, mais c'est faux. Dans le sens où nous sommes sauvés par grâce, et c'est cette grâce qui va impacter notre vie. Il n'y a pas des chrétiens qui se sont réunis en disant, bon, comment est-ce qu'on va faire tomber l'Empire romain? Parce que ça ne nous convient pas. Hein? Regardez ce que dit Pierre. Il dit, si vous invoquez comme père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon son œuvre, alors conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Pierre dit pas, prenez les armes ou prenez les, voilà, prenez l'autorité qu'il faut pour renverser les gouvernements. Ce message va même toucher les proches de César. Hein? C'est ce qu'il nous dit dans Acte 13, verset 1. Hein? Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, et on va nommer Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Et puis Philippiens 2, 22, les frères qui sont aussi avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Et l'évangile a pénétré des sphères peut-être politiques. Certainement, hein. À quel niveau on ne sait pas, mais en tout cas c'est surprenant de voir cette inscription. Il n'y a pas une rupture entre ils sont politiques, ils sont près de César, on ne leur parle pas. Hein. Et Jean Calvin disait en commentant ce verset, ceci est bien digne de remarque et un signe peu ordinaire de la miséricorde de Dieu que l'Évangile sous Néron, n'oublions pas, eut pénétré dans cet abîme de tous les crimes et de tous les vices, d'autant plus admirable que l'on trouve plus rarement les saints dans les cours. Hein? Voilà jusqu'où va la grâce de Dieu. Hein? Alors nous voyons, bien sûr, pas dans le Nouveau Testament, une opposition à cela. Il ne doit pas se convertir parce qu'il fait partie voilà, de mouvements politiques. Alors aujourd'hui, dans certains pays, il y a la combinaison entre religion et État, entre christianisme et État. Hein? Personnellement, je pense que c'est plus quelque chose d'ordre culturel que d'ordre cultuel. Hein? Parce qu'il y a un christianisme sociologique qui fait que dans certains pays, il y a, vous savez, moi j'ai vu des pays où avec les officiels, on commence par la prière. C'est pas choquant. Hein? En France, waouh. Hein? Bon, sauf quand on est pasteur arménien. Je sais pas pourquoi c'est admis, mais en dehors de ça, c'est pas du tout admis. Hein? Ah non, non, la prière, c'est dehors. La prière, c'est votre vie privée. Hein? Alors, je suis pas sûr que ça fasse bon ménage, hein, ce religieux et ce politique. Hein? D'ailleurs, la plupart de nos autorités politiques ne s'affichent pas comme croyants. Hein? Et même s'ils le sont, ils ne sont peut-être pas au sens biblique. Et même s'ils l'étaient, même si nous avions un président chrétien, il y en a qui mettent Jésus dans le, j'ai vu ça, hein, dans le, oups, votre Jésus, ça sert à rien. Bon, tu peux témoigner autrement, hein. Ça irrite ceux qui dépouillent, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça sert à rien. Bon, juste pour dire que même si le président ou la présidente au pouvoir était chrétienne, eh ben, je peux vous garantir qu'il lui serait impossible d'imposer les lois de l'évangile. Hein. Pourquoi? Eh bien, au nom de la paix sociale, cela lui serait complètement impossible. Alors, il y a deux positions rapidement extrêmes à éviter. La première position, c'est par le politique, nous allons établir le royaume de Dieu sur terre. Ça arrive. Hein? Il y a des mouvements d'église qui ont essayé. On veut établir, alors c'est post-millénarisme, c'est-à-dire le millénium, c'est le règne de l'église, de la politique, et on va changer tout cela. Alors, j'aime beaucoup cette citation de Luther, qui disait ceci, régir tout un pays par l'évangile, hein? Eh bien, c'est comme si un berger mettait ensemble dans une étable des brebis, des loups et des lions. Les brebis voudraient certes faire régner la paix, mais elles ne vivraient pas longtemps. Je peux vous garantir que le monde de la politique est un monde cruel. Un jour, on a demandé, quelqu'un a dit à Churchill, « Oui, vous n'avez jamais connu la guerre, vous n'avez jamais été blessé. » Et Churchill a répondu, « Non, on m'a tué. »« Ah bon, mais vous n'avez jamais été au front. » ?»« Oui, mais en politique, plusieurs fois, on m'a mis à mort. Hein? » Une de nos amies chrétiennes, dont le père était très impliqué dans la politique, a dit, « Eh bien, en politique, c'est comme si tu te trouvais au milieu de ronces. Tu peux pas avancer sans te faire mal. » Et du coup, tu dois réagir. Hein? Alors, je ne dis pas que toutes les positions politiques dans lesquelles les chrétiens sont engagés ne valent rien, mais la politique, à un certain niveau, c'est vraiment chaud. Hein? Donc, on ne peut pas espérer que la politique amène le royaume de Dieu sur terre. Hein. L'autre extrême, c'est donc ne se désintéresser totalement de la politique. Il y a des chrétiens qui disent, moi, je ne me mêle pas de cela. La politique, c'est au niveau local jusqu'au national et international, c'est rechercher le bien de la cité. Nous sommes des citoyens aussi de ce monde, même si nous sommes concitoyens des cieux, n'est-ce pas? Et en fait, un chrétien doit s'exprimer, il doit se mobiliser, surtout s'il est en désaccord sur des thèmes qui touchent la position de Dieu. Moi, je pense que souvent les chrétiens disent, ouais, moi, je ne mêle pas de politique et des lois éthiques commencent à rentrer dans la tête de nos gamins déjà. On dit, ah, mais je ne savais pas. Faire une signature, enfin, signer une pétition contre telle ou telle loi, c'est aussi un acte de citoyen. Proverbe 24 nous dit ceci, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va tuer, agis pour qu'on les épargne. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le comprend-il pas? Celui qui veille sur ta vie ne le sait-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Ah, je peux pas dire je savais pas ou oh, c'était pas important, hein, quand des lois éthiques sont en train d'être discutées et votées. J'aime bien que tu as cité C.S. Lewis tout à l'heure, Étienne, hein, un auteur que j'aime beaucoup. C.S. Lewis disait ceci, si vous voulez une religion pour vivre vraiment dans le confort, je ne vous recommanderai certainement pas le christianisme. Voilà, hein, c'est tout dit. Hein. Le christianisme n'est pas une religion de confort, c'est une religion où à un moment donné, enfin une religion dans le sens croyance, hein, dans laquelle on s'engage et qui nous engage, hein. Alors, voilà, qui nous montre comment nous positionner en tant que chrétien. Alors, comment nous positionner, hein? La position du chrétien devrait sans doute s'inspirer de celle des juifs dispersés lors de l'exil. Alors, je ne vais pas vous dire qui voter parce que ça vous regarde, hein, devant Dieu, hein. Bon, peut-être certainement, vous n'avez pas encore choisi, hein. Alors, la première des choses, et on va rapidement, donc, ça va être une conclusion avec quatre petites, voilà, petites remarques. La première, c'est reconnaissons d'abord que toute autorité a été instituée par Dieu. C'est une certitude. L'apôtre Paul dit dans Romains 13, car il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Je suis très surpris lorsqu'on regarde rétrospectivement, les élections, le prompteur marche plus là, lorsqu'on regarde les élections passées, comment il y avait des favoris qui étaient placés et comment des gars qui étaient presque en second rang ont pris la place. C'est dingue, hein? Vous savez que dans les années 80, c'était Michel Rocard qui était le favori. Ouais, c'est Mitterrand qui a pris sa place. Comment expliquer alors quand je dis ça, il parle politique. Je me souviens une fois, il y avait une sœur, juste une parenthèse, qui me disait, aujourd'hui, on a parlé politique. Hein? Et en fait, non, c'est pas de la politique, c'est juste de voir comment nous qui pensons que telle personne va arriver, en réalité, Dieu en choisit une autre. Une chose est sûre, c'est que il existe des rebondissements dans toutes les campagnes électorales, des candidats qui défient les sondages, mais ne défient jamais Dieu. Dieu dit que toute autorité vient de lui, même quand les urnes parlent avec surprise. Hein? Il n'est pas dépassé par ça. La deuxième des choses, sachant cela, même si le candidat qui est élu n'est pas le nôtre et que nous le détestons, hein, eh bien Dieu nous demande de lui être soumis. Ah, c'est dur ça, hein? C'est plus facile d'être soumis à Dieu qu'on ne voit pas, hein? Voilà. Paul dit dans Romains 13:1 que toute personne, pas ceux qui sont nés avant, après 65, non, 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 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ah, hein? Bien sûr, il y a une limite à la soumission. Ah, la limite, c'est pas ce que je pense, hein? Oui, je soumets là. Le feu rouge, je le prends pas parce que j'aime pas trop le rouge, hein? Alors je passe. C'est pas ça la soumission, hein? La limite, c'est pas ce que moi je pense. La limite, c'est ce que Dieu pense. Être sûr que nous pouvons refuser d'obéir si un ordre divin supérieur nous y amène. Alors, ça va pas faire plaisir à la République, hein, je le sais, bien sûr. Jean-Baptiste est allé voir Hérode. C'est ce qu'il a dit à Hérode. Tu ne dois pas épouser la femme de ton frère parce que celui-ci n'est pas mort. Évidemment, il a signé sa mort avec ça. Hein? Devant le Sanhédrin et le souverain sacrificateur, Pierre a dit, on a dit, vous savez, bon, vous pouvez évangéliser, mais dans votre coin. Mais non, 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 vous pouvez même pas trop parler, hein? Pas trop de bruit, hein? Pas de vagues. Eh oui, évidemment, pas de vagues. Pierre a dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, attention de ne pas mettre cet autocollant sur tout, hein. Mes impôts, et tata, non, 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 non. Ça marche pas comme ça, hein. Payez l'impôt à qui vous devez l'impôt, a dit Jésus, hein. Voilà. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est, voilà. Et pas à Dieu ce qui est à moi, ok, ou à vous, hein. Bon, non. On doit rendre ce qui est à l'homme et ce qui est à Dieu. Il n'y a pas d'insoumission inconditionnelle. Ça, c'est clair pour les chrétiens. Je ne peux pas aveuglément obéir aux autorités. Hein. Et pour cela, avons-nous reconnu l'autorité de Jésus? Alors, je finis. Souvenons-nous que chacun des candidats, comme des personnes avec qui nous, peut-être nous entretenons politique, mérite notre respect et bienveillance. Surtout s'ils ne sont pas d'accord avec nous. Eh oui, c'est une règle. Dans ces temps difficiles, je vois que nous avons l'impression de rentrer dans des débats passionnés. Il y a un humoriste qui a dit, en fait, en France, on a l'art de choisir quelqu'un et qui nous sert de piñata pendant 5 ans. On lui tape dessus, hein, voilà. Le chrétien ne doit pas être dans cette démarche-là, hein. En d'autres termes, nous devons être vraiment attentif, hein, ouvrir nos oreilles à ce monde qui souffre, hein, avoir de l'amour pour celui avec qui nous parlons, qui n'est pas d'accord avec nous ou avec qui on n'est pas d'accord, mais aussi avoir un message de vérité. Hein. Je dis souvent que l'Église doit rester cette ambassadrice de la réconciliation avec Dieu. Et c'est ça notre message. Nous sommes tous des ambassadeurs. Notre but n'est pas d'avoir notre candidat ou nos opinions dominées, mais notre but est que la personne se réconcilie avec Dieu. Alors, en dernier point, je vous laisserai ceci qui va vous occuper toute la semaine. Priez plutôt que de... Je n'ai pas entendu. Priez plutôt que de... Voilà, et pas crier, hein, plutôt que de critiquer. Hein. Oui, prions. Pourquoi? En réalité, mon frère, ma sœur, nous sommes sauvés par grâce, n'est-ce pas? Qui mérite la grâce de Dieu parmi nous? Tout le monde la mérite? Elle s'adresse à tout le monde. Mais qui la mérite? Personne ne la mérite. Hein? Exactement. C'est vrai, elle s'adresse à tous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Tous, ça veut dire qu'elle n'est pas qu'à moi. Et quand je critique, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de dire, tu ne mérites pas la grâce de Dieu. Parce que tu es en dessous. Et moi, je suis là. N'est-ce pas? Nous méritons... Aucun de nous ne mérite la grâce de Dieu. Et pourtant, elle s'adresse à nous tous. Nous ne méritons pas l'amour de Jésus. Et pourtant, eh bien, pourtant, elle est pour chacun. Alors, Jésus est venu pour toi, pour moi, pour chacun, pour les responsables qui sont au-dessus de nous. Il est venu pour chaque homme. Et il est mort aussi pour les responsables politiques que nous allons élire. Tout cela... Vous savez, la vie politique, en réalité, c'est temporaire. Un empire vient, un autre prend la place, une civilisation arrive, une autre... Même au niveau civilisationnel, hein, tout ça est temporaire. Une seule chose est éternelle, c'est le royaume de Dieu. Et regardez ce que dit Paul. C'est, voilà, nous finissons avec ça. Le cœur du roi est un courant dans la main de l'éternel. Il l'incline partout où il veut. Ça me rassure, hein. Poutine ne fait pas ce qu'il veut. Hein. Il est même limité dans ce qu'il fait. Hein. Même involontairement accomplit-il des choses. Je suis persuadé que dans cette période-là, à mon avis, même j'ai des témoignages de personnes ukrainiennes qui se convertissent parce que finalement, elles ont tout perdu. Qu'est-ce qui leur reste? Dieu. Et peut-être que notre confort à nous ne joue pas en notre faveur spirituellement. Et ce que Paul dit, et je vous laisse, j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, les présidents, pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et dignité. Voilà. Bon vote pour dimanche prochain. Alors dimanche prochain, c'est les rameaux, c'est le jeune donc de l'Institut biblique, donc ce groupe qui va venir, qui va prêcher. Je pense qu'il va pas s'engager dans la politique, en prédication. Hein, il va certainement nous parler des rameaux. En tout cas, gardons à l'esprit cette semaine que nous avons besoin d'intercéder pour notre pays. Que Dieu vous bénisse.